c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, l'Allemagne relance donc ses centrales à charbon pour produire son électricité.
Oui, un véritable crève-cœur d'après le ministre allemand de l'économie et du climat qui en a fait l'annonce dimanche. Le principe de réalité a eu raison pour l'instant des ambitions de l'Allemagne de sortir d'ici à 2030 de la plus polluante des énergies. Et vous citiez tout à l'heure Baptiste, le climatologue Christophe Cassou, rappelant que chaque tonne de CO2 compte. Le ministre écologiste Robert Habeck a donc mis sa promesse entre parenthèses. Il n'a pas trouvé d'autre solution pour réduire la consommation allemande de gaz russe. Gaz russe dont l'Union européenne a décidé de se passer à terme, mais dont Gazprom a d'ores et déjà commencé à réduire drastiquement les livraisons. Bonjour Thomas Pellerin-Carlin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Est-ce que l'Allemagne a encore accès, en tant soit peu, au gaz russe aujourd'hui, ou Gazprom a coupé le robinet, y compris à ce pays qui lui avait facilité la tâche en construisant le gazoduc Nord Stream 2?
Donc là, les livraisons de gaz russe vers l'Allemagne par le gazoduc Nord Stream se sont effondrées. Elles ont été quasiment divisées par trois depuis quelques jours. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement allemand a annoncé des mesures supplémentaires par rapport à ce qu'ils avaient déjà prévu depuis plusieurs semaines pour faire face à cette crise énergétique que vit l'Allemagne et l'Europe.
Cette dépendance allemande au gaz russe avait d'ailleurs déjà un peu évolué ces dernières années. Elle s'était accrue. Pourquoi ?
Alors il y a eu un choix politique de l'élite politique et l'élite économique allemande. Ce choix politique, il a été fait il y a une quinzaine d'années avec la création de Nord Stream 1, et à l'époque, il était basé sur l'idée que c'est le changement par le commerce, c'est-à-dire que c'est en commerçant avec la Russie de Vladimir Poutine qu'on pourra aider la Russie de Vladimir Poutine à changer et du coup à s'intégrer au monde occidental. Donc ça, cette priorité politique il y a 15 ans, elle était compréhensible. Elle aurait dû par contre être vue à partir de 2014 et l'annexion de la Crimée et la première guerre au Donbass, où là il était très clair que voilà, ce projet politique de changement par le commerce avait échoué. L'Allemagne ne l'a pas fait. Au contraire, ils ont choisi de renforcer leur dépendance au gaz russe, notamment par la construction du gazoduc Nord Stream 2. Et sur ce sujet-là, il faut être très clair, les Allemands n'ont pas été naïfs, ils ont été cupides.
Est-ce qu'on sait combien de réserves dispose l'Allemagne aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a de quoi tenir et pour combien de temps si la Russie venait à réduire encore ses livraisons, voire à les stopper net ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est désormais sur un marché gazier européen. Et donc, il faut regarder ça à la maille européenne. Tant à la maille allemande qu'à la maille européenne, on a suffisamment de stock pour passer l'hiver prochain normalement si il n'y a pas d'autres soucis. S'il n'y a pas de soucis supplémentaires sur le parc nucléaire français, si on n'a pas un hiver particulièrement froid, si on n'a pas des problèmes de livraison de gaz naturel liquéfié, parce qu'on peut avoir des problèmes avec, par exemple, un terminal de gaz naturel liquéfié aux États-Unis qui a pris feu récemment. Donc, s'il n'y a pas de problème supplémentaire, ça devrait aller, mais on est quand même dans une situation critique. Et c'est pour ça que l'Allemagne, du coup, le gouvernement allemand a annoncé des mesures relativement ambitieuses et parfois même un petit peu extrêmes, tant sur le charbon que sur les économies d'énergie, que aussi sur les efforts à faire par l'industrie allemande pour consommer le moins de gaz possible avant l'arrivée de l'hiver.
Donc on va les développer. Parmi les mesures annoncées dans cette feuille de route dimanche, il y a celle justement de reconstituer les stocks alors que les prix ont flambé en mettant une grosse enveloppe, 15 milliards d'euros à disposition des entreprises qui s'occupent du stockage. Et Robert Habeck, le ministre de l'économie et du climat, a donné d'autres détails sur cette feuille de route que lui et son équipe ont élaboré pour l'Allemagne. Donc vous commenciez à le dire, Thomas Pellerin-Carlin, le recours accru au charbon, est-ce qu'il va falloir faire tourner des centrales à charbon qui avaient fermé, ou il s'agit d'augmenter la production de celles qui sont toujours en service ?
Alors, il s'agit d'abord d'augmenter la production de celles qui sont toujours en service. Il s'agit aussi de retarder la fermeture des centrales à charbon qui étaient censées fermer cette année et l'année prochaine. Par ailleurs, il y a d'autres centrales qui ont été mises de côté au sein de ce qu'on appelle une réserve de stabilité de réseau. Et là, elles sont activées pour pouvoir être utilisées si jamais il y avait des problèmes importants sur la fourniture d'électricité. L'Allemagne joue un rôle clé dans le système électrique européen, de par sa puissance électrique, mais aussi de par son rôle central géographique. Et l'Allemagne, du coup, est un pays clé pour la stabilité du réseau européen et aussi du réseau français. Et donc, du coup, une partie, en fait, de cette électricité allemande fabriquée à base de charbon, ce sont des électrons qui vont, en fait, finir en France pour combler les mésaventures du réseau électrique français, notamment nucléaire, à l'arrivée de l'automne et de l'hiver prochain.
Et combien de centrales à charbon avaient fermé ces dernières années en Allemagne pour répondre à cet engagement qu'elle avait pris a priori de se passer du charbon d'ici à 2030, mais tout en devant compenser l'arrêt du nucléaire.
Alors la priorité historique en Allemagne, ça a été la fermeture des réacteurs nucléaires. Donc là, actuellement, il y en a 3 en opération qui vont fermer en décembre prochain.
Ça, on ne revient pas dessus, même avec les nouvelles mesures.
Bah là, en fait, c'est un peu trop tard pour revenir dessus. Une centrale nucléaire, c'est pas quelque chose. Enfin, une fois que vous avez décidé de la fermer, c'est pas quelque chose que vous pouvez réactiver 6 mois avant la fermeture. Notamment pour les réacteurs allemands, il y a des enjeux techniques, puisqu'il faut avoir en fait des barres d'uranium, de combustible, qui sont faites sur mesure pour ces réacteurs. Et selon en tout cas le gouvernement allemand, il faut 18 mois pour fabriquer ces barres-là, et ils n'en ont pas commandé puisqu'ils ont prévu de fermer ces centrales. L'Allemagne avait aussi prévu du coup de sortir du charbon. Durant la décennie 2030, le gouvernement précédent visait 2038, le gouvernement actuel vise l'année 2030, et ça n'est pas remis en cause. Donc là, l'objectif du gouvernement allemand, c'est de faire un détour pour se passer le plus vite du gaz dans les années 2023-2024, se passer du gaz russe, parce qu'on est dans la situation géopolitique qu'on connaît avec Vladimir Poutine, mais ils ne remettent pas en cause leur objectif de sortir du charbon en 2030. Et du coup, pour ça, la priorité allemande, c'est de faire des efforts très importants sur l'économie d'énergie à court terme et de faire des efforts considérables sur le déploiement des énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables représentent déjà presque la moitié de la production électrique allemande, ce qui est considérable, et leur objectif, c'est de se rapprocher des 80% à l'horizon 2030 et des 100% après.
Donc cet objectif d'Energiewende, le virage écologique de l'énergie, ne change pas pour l'Allemagne. Ces encouragements à faire des économies d'énergie, Robert Habeck, le ministre, a dit chaque kilowatt compte. Cette injonction est-elle destinée aux particuliers, à l'industrie? Comment compte-t-elle la faire appliquer?
Alors cette injonction, elle est destinée à absolument tout le monde. Le terme qui a été utilisé il y a plus de 10 jours par Robert Habeck, c'est le terme de mobilisation nationale. Et pour une fois, on a un gouvernement important en Europe qui dit la vérité à son peuple, qui est que l'hiver qui s'annonce, à cause de problèmes électriques en France et surtout à cause de l'épée de Damoclès, de la coupure du gaz par Vladimir Poutine, l'hiver qui s'annonce, c'est un hiver qui va être très difficile pour les Européens d'un point de vue énergétique, d'un point de vue électrique aussi. Et cet hiver-là, il faut s'y préparer. Ce sera peut-être le pire hiver de ce point de vue depuis 1945. Et du coup, plus on est capable d'économiser aujourd'hui de l'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz, à la fin, in fine, ça nous permet de ne pas brûler aujourd'hui des molécules de gaz qu'on peut stocker pour les avoir à disposition au pire moment de l'hiver, en janvier, février, surtout si Vladimir Poutine nous coupe le gaz, surtout si l'hiver est particulièrement difficile et particulièrement froid.
Donc pour les industriels qui consomment 37% des volumes de gaz en Allemagne, a été mise en place l'idée d'un système d'enchères pour la vente de gaz aux industriels, avec l'idée de faire baisser la consommation puisque les entreprises pourront revendre leur gaz non utilisé sur le marché, si j'ai bien compris. Les particuliers, eux, qui consomment 31% des volumes de gaz en Allemagne, vont voir plafonner les températures, pour ceux en tout cas qui se chauffent au gaz, à 19-18 degrés cet hiver, l'hiver prochain, contre 20 à 22 les hivers précédents. Techniquement et légalement, c'est possible?
Oui, c'est possible parce que le gouvernement le propose. Après, quand on rentre dans une logique de mobilisation nationale, on est sur une logique où il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Le gouvernement est là pour impulser, pour faire en sorte que tout le monde soit mis à contribution, et notamment ceux qui sont les plus riches et ceux qui consomment le plus, ce qui est le cas pour les industriels allemands. Mais il y a besoin d'une mobilisation nationale qui implique aussi toutes les régions, toutes les localités, mais aussi toutes les entreprises et tous les individus. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut s'inspirer en tout cas de certaines bonnes choses qui ont été faites en Allemagne, puisque c'est les choses qui vont devoir être faites en France, en Tchéquie, en Italie, le plus vite possible, avec vraiment ce leitmotiv, cet objectif d'économiser vraiment chaque kilowattheure d'électricité possible, chaque kilowattheure de gaz possible. Ça, pour être très très concret, c'est éviter de surclimatiser les bureaux en été. C'est aussi partir du principe que tout le monde, et pas simplement les plus pauvres, doivent apprendre à mettre un pull en hiver de manière à pouvoir se chauffer à 18, 17 degrés chez soi plutôt que 21 ou 22. Et ces éléments-là sont essentiels en fait pour qu'on puisse baisser de manière très significative la demande d'énergie. Un bon point de référence, c'est ce qui s'est passé au Japon il y a 10 ans après Fukushima. Après Fukushima, ils ont des gros problèmes sur leur système électrique. Et le gouvernement japonais a lancé une campagne nationale d'économie d'énergie, le Setsuden, qui leur a permis d'économiser jusqu'à 15% de l'électricité au Japon. Et ça, c'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est tout à fait réaliste, mais qui demande une mobilisation générale de la société, qui demande aussi qu'on arrête de gaspiller de l'électricité pour, par exemple, éclairer des boutiques la nuit, ce qui continue d'être malheureusement le cas à Berlin comme à Paris.
Combien de temps durera le retour au charbon de l'Allemagne? L'invité des enjeux internationaux ce matin est le directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, Thomas Pellerin-Carlin.
Alors Thomas Pellerin-Carlin, l'Allemagne s'était aussi engagée à se passer d'énergie fossile dès 2045, dans un peu plus de 20 ans. Que sont donc ces trois projets de terminaux de gaz naturel liquéfié que Robert Habeck a remis en selle, puisqu'ils étaient en pause depuis 2 ans, encore une fois pour se passer du gaz russe à Brunsbüttel, en Allemagne, à l'entrée du canal de Kiel, à Wilhelmshaven et à Stade, au nord de Hambourg, au bord de l'Elbe. On va voir donc des terminaux de gaz naturel liquéfié se remettre en route ou se mettre en route, mais pour importer du gaz, du GNL, d'où, le faire venir d'où?
Alors ce gaz naturel liquéfié peut venir du monde entier, hein, c'est sur un marché mondial que ce gaz s'achète. Quand il y a besoin de fluidifier un peu les relations avec certains partenaires de manière politique, du coup c'est utile de ce point de vue-là, hein, d'avoir des ministres qui vont rencontrer d'autres décideurs de pays exportateurs de gaz naturel liquéfié. Et de manière très très symbolique, Robert Habeck lui-même était allé rencontrer des décideurs au Qatar, de manière à fluidifier ces relations-là, le Qatar étant un des acteurs clés du marché du gaz naturel liquéfié mondial.
Ce qui n'est pas très écologique ni politiquement questionnable aussi, le fait de se tourner vers le Qatar ou les Émirats Arabes Unis.
Absolument, mais là on est en mode gestion d'urgence et entre deux mots, choisir le moindre. Donc entre le mal de notre dépendance au gaz russe qui finance la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine d'un côté et renforcer une coopération avec le Qatar qui est effectivement un pays qui pose tout un tas d'autres problèmes. Entre deux mots, le gouvernement allemand essaye de choisir le moindre.
Et entre deux mots MOTS cette fois-ci pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, ces infrastructures donc qui vont se remettre en place, est-ce qu'elles ont trouvé leur modèle économique? Parce que si l'Allemagne doit se passer d'énergie fossile dès 2045, ces infrastructures seront-elles un jour amorties?
Alors ce que souhaite faire le gouvernement allemand, c'est déployer des systèmes de regasification flottants. Donc c'est des choses qui sont lourdes, hein. Ça demande quand même 2 ans d'installation, mais c'est des choses qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui peuvent être démontées pour être envoyées ailleurs dans le monde. Donc de ce point de vue-là, le projet allemand n'est pas pleinement antagoniste avec leur objectif d'atteindre la neutralité climat en 2045, ce qui reste l'objectif principal, hein, du gouvernement allemand, et qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans cette crise-là, la priorité des priorités, ça reste les économies d'énergie et le déploiement massif des énergies renouvelables.
Merci beaucoup Thomas Pellerin-Carlin. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors et que vous devez filer pour l'Allemagne en train, je précise, au plus grand festival européen de la Clean Tech près de Cologne pour parler de transition énergétique, industrielle, écologique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, les enjeux, c'est fini. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux et de nouveaux enjeux internationaux. Julie Gacon, à 6h45 pour vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.